Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
Actu.
Actu. Elle et lui.
Elle.
Lui. Elle. Lui.
D'actuel.
Et lui.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Actuel et lui. Bonjour les filles.
Et salut. Bonjour Guillaume, bonjour Anne-Marie.
Salut, salut.
Alors on vous avait promis des surprises pour aujourd'hui. Alors on en a effectivement quelques-unes et c'est un petit peu gastronomique pour culinaire, on va dire, pour la première partie de l'émission.
Mais... dans notre studio, il y a plus de matériel de cuisine que de matériel de radio. C'est tout. Hein,
voilà,
on vous... fait des tests, on fait des expériences.
Vous pouvez d'ores et déjà retrouver les photos sur le site, sur le Facebook de 48FM. Voilà, on vous les avait mis pour vous mettre en appétit. Et donc, on va parler de quoi, Anne-Marie?
Alors, de légumes oubliés.
Et moi, je vous parlerai de crêpes, puisqu'on parlera de la chandeleur.
Et on va en manger.
Et on va en manger.
Cool.
Et Aurélie, pour digérer, tu nous proposes quoi?
Moi, je vous installe devant la télé et on va parler de Sherlock Holmes.
Ça marche.
Bien, on commence avec des légumes oubliés. Il y en a un petit peu plein à la table ici du studio. Alors,
oui, puis de différentes couleurs. Hein.
Ouais,
cru, cuit.
Voilà. Oui, puis on a du orange, du blanc, du violet. Enfin bon, voilà, on va voir tout ça. Puis il y a des crêpes aussi à ma droite, mais bon, ça c'est pour ta chronique.
C'est pour le dessert, ça.
Voilà. Alors normalement, un légume, on le déterre. Sauf qu'avec certains légumes, on a préféré les enterrer. Effectivement, certains passés de mode sont appelés légumes oubliés. Mais il ne faut pas les prendre pour des prunes en cet hiver.
Comme les brunes.
Exactement.
En même temps, la petite patate, là, on pourrait la prendre pour une prune.
Eh bien non. En cet hiver, vitelotes, topinambours et crônes prennent leur revanche sur les traditionnelles pommes de terre, carottes, brocolis ou encore salsifis. Voici la résurrection de certains légumes dans votre assiette.
Alors pourquoi on les appelle des légumes oubliés?
Bon, alors Guillaume, je vais prendre des sources.
Ta source.
Voilà, Wikipédia.
Favorite.
En même temps, je trouve que la définition est plutôt pas mal, effectivement.
Ils sont quand même pas mal.
Oui, oui, oui. Non, mais on se moque, mais ils sont bons quand même.
Oui, on se moque de toi, pas de Wikipédia.
Bon, voilà, alors, les choses sont dites.
Voilà. Qu'appelle-t-on donc les légumes oubliés? Alors, je réponds à ta question, Guillaume. Alors, selon Wikipédia, la diversité des espèces et variétés de légumes consommés s'est fortement réduite au cours du XXe siècle avec le développement de nouveaux modes de production et surtout de nouveaux modes de distribution qui ont conduit à ne retenir qu'un nombre restreint de formes standardisées de grande diffusion. Retenez bien, formes standardisées, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Les deux grandes guerres du XXe siècle et leur période de famine, durant lesquelles seuls les légumes les mieux adaptés étaient mangés en quantité, ont également été quasi fatales à ceci. C'est vrai qu'on privilégiait plutôt la pomme de terre, qui était facile en plus à cultiver. Le topinambour ou le rutabaga ont ainsi été longtemps considérés comme des légumes de disette. L'action de quelques passionnés a permis de remettre au goût du jour les légumes secondaires connus sous le nom de légumes oubliés.
Mais le rutabaga et le topinambour, c'est la même chose?
C'est la même chose. Non, ce sont deux légumes différents.
Ah, voilà.
Non.
Non, mais comme tu le disais, on pouvait croire que... Non, c'est pas grave.
Ah d'accord. Non, mais ce sont bien deux légumes complètement différents.
Très bien.
Donc, oui, effectivement. Alors, je disais que grâce à l'action de quelques passionnés, certains légumes sont revenus à la mode, tels que le crône du Japon, le pané, le cerfeuil tubéreux. D'autres ont bénéficié d'effets de mode. Ainsi, certaines espèces de cucurbitacées, le patisson, connaissent un certain engouement en Europe depuis le développement de la fête d'Halloween importée d'outre-Atlantique dans les années 90. Voilà. Alors aujourd'hui, il n'est pas rare de voir dans les assiettes des plus grands restaurants des légumes oubliés revisités. Leur mauvaise image s'est envolée. Mieux, cela devient chic et original de les cuisiner.
Alors, tu nous as donné quelques noms là au cours de ta définition, mais tu peux nous en citer, nous en parler?
Oui, alors on retrouve aussi donc la vitelotte, c'est une pomme de terre, une race de pomme de terre, le topinambour, le scorsonnerre, c'est un genre de salsifis, le rutabaga donc, le schinderap, une sorte de brocoli, le pâtisson, la coloquinte, c'est une plante rampante, le panais donc, ou encore la courge butternut. Quand on regarde de plus près ces légumes, on leur trouve surtout des points communs. Leurs noms sont imprononçables, hein, généralement, et ils sont tous laids, sauf la vitelotte, mais j'y reviendrai ensuite. Et pourquoi je dis tous laids ? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que maintenant, nos modes de distribution, on privilégie les formes standardisées. C'est vrai qu'on a généralement des beaux légumes.
Tous de la même forme.
Exactement, dans les magasins. Et eux, ils arrivent et ils sont pas très beaux, mais ils sont bons.
Donc, ils sont pas très beaux.
Sont pas très beaux. Alors, on va prendre justement l'exemple du crône, appelé également le crône du Japon. Alors, cette plante potagère cultivée pour ses tubercules ressemble à des petits vers blancs boursouflés. Donc, je ne sais
oui,
pas si vous avez encore l'image. Mais des... voilà, là, j'ai une image que je montre à mes amis Guillaume et Aurélie.
C'est plus difficile.
C'est vraiment blanc boursouflé. On a limite l'impression qu'on est à Koh-Lanta et qu'on,
asticot,
voilà,
oui.
qu'on va manger un truc
ou
vivant.
Ou des pretzels, là, les pâtes
les
pâtes asiatiennes.
Ah oui, c'est vrai. Aussi, c'est vrai, j'y avais pas pensé.
Voilà, c'est un peu plus flatteur.
Exactement. Alors, en plus, si vous voulez manger le crône, parce que donc il est moche, mais le truc, c'est qu'en plus, il faut au préalable le faire cuire.
En plus, il est pénible, c'est ça
voilà.
que tu veux dire.
Parce qu'il faut le faire cuire au préalable dans de l'eau bouillante, hein, forcément, donc pendant 10 grosses minutes, voire un petit quart d'heure, ça dépend. Et le nettoyer, surtout, pour enlever sa fine peau et la bon courage.
Et parce que c'est tout petit.
Voilà.
Ça fait 2-3 centimètres.
Exactement, c'est tout petit. Et cette opération prend énormément de temps. Et puis, comme c'est pas rond, voilà, qu'il y a plein de petits creux, eh ben on prend
c'est la
galère.
Tu peux pas le faire au couteau économe.
Ah non, ah bah là tu manges plus rien quoi. C'est sûr. Alors sinon pour info, hein, le crône est appelé aussi crône du Japon comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisqu'il est ramené d'Asie à la fin du 19e siècle. Pratique pour ceux qui ont la main verte, hein, il se cultive facilement, il est peu sensible aux maladies et par ailleurs un seul tubercule oublié dans la terre donne naissance à de nouveaux pieds et nombreux. Donc vous l'aurez compris, le crône est certes moche mais il est économique. Voilà, si vous voulez en faire dans votre jardin,
mais tu crois qu'on
pas.
Peut en prendre un du commerce, qu'on replante et ça peut marcher c'est ça parce que où est-ce qu'on va trouver chez un
ah bah
maraîcher,
si après t'as t'as des petites graines je suppose
parce qu'effectivement ça a l'air rigolo.
Oui, alors quand est-ce qu'on peut manger de ça, est-ce que c'est la saison actuellement?
Oui, alors effectivement on en trouve de novembre à mars, mais plus généralement je vais vous parler des légumes, de toute façon on les trouve en ce moment, donc voilà. Mais en tout cas pour le crône du Japon on en trouve donc de novembre à mars. Si vous faites ces jours-ci votre marché, vous en trouverez forcément sur les étals. Son goût est légèrement sucré. Il peut d'ailleurs faire penser aux salsifis ou parfois aux pommes de terre aussi, ça dépend comment on le cuisine. Hein. Alors le crône du Japon est souvent servi avec des viandes. Vous pouvez donc manger les crônes sans sauce ou avec, juste cuit à l'eau ou bien les faire frire à la poêle, c'est à votre convenance. Mais c'est vrai que c'est quand même meilleur, je trouve, quand c'est revenu à la poêle.
Moi aussi, ouais.
Voilà. On va d'ailleurs avoir une petite recette à la fin de la chronique.
Ah. Bon, et alors, tu as d'autres exemples de légumes oubliés, pas forcément beaux à voir?
Alors bon, bah j'espère qu'ils ne nous écoutent pas, mais le rutabaga est vraiment pas beau. Hein. Sûrement aussi détesté hein, du point de vue de l'image que le topinambour. Alors élevé au rang d'aliment de base hein, pour l'homme durant la Seconde Guerre mondiale, il n'en garde pas une bonne réputation en France ni en Allemagne chez les personnes âgées. De nos jours, il était essentiellement cultivé pour l'alimentation des animaux domestiques. Et pourtant, comme son cousin le navet, ce légume racine se cuisine en potage ou en purée. Il est même utilisé dans certains couscous et on peut l'ajouter aussi dans le pot-au-feu. Alors, si vous préférez l'originalité, coupez-le comme si c'était des frites et laissez-le caraméliser dans une poêle avec du sucre ou du miel. Sachez enfin que ce légume recèle de trésors insoupçonnés. C'est un excellent diurétique et laxatif qui permet de bien digérer. Sa consommation régulière pourrait également permettre de diminuer les risques de cancer. Donc, voilà, la bonne
entrée. Plus, c'est de la santé.
Exactement.
Et tu nous parles du panais que tu nous as amené?
Oui, alors effectivement, j'en ai amené du cru et du cuit. Alors, il appartient à la même famille botanique que celle de la carotte. D'ailleurs, les deux se ressemblent.
Ouais.
Voilà, les deux se ressemblent hein, avec leur forme conique, même si...
ça sent la carotte cuite.
Ah oui, oui, oui. Donc, même si donc, la peau du panais est blanche, alors que avec la carotte, c'est orange, quoi. Et puis... Comme tu nous le dis, Guillaume, le goût est à peu près le même, un petit goût sucré.
Tout à fait.
Aurélie, c'est où tu en as mangé?
Oui, j'ai goûté, oui. Effectivement, c'est ce que je cherchais tout à l'heure, à quoi ça pouvait bien ressembler. C'est vrai que c'est
ça
doux.
Ça fait très carotte, oui, très doux.
Un peu au fond d'artichaut aussi, un petit peu encore là. Douceur, quoi, salsifie. On est proche en texture et en goût.
Mais c'est vrai, c'est ça fait bizarre parce que voilà, on s'attend pas forcément à manger comme une carotte, tout simplement, puisque encore une fois, la peau et la chair est blanche, enfin blanchâtre. On ne pense pas que c'est le même goût qu'une carotte. Alors, le panais avait la cote hein, au Moyen-Âge. Aujourd'hui, il fait son comeback pour le bonheur de nos papis, n'est-ce pas Guillaume et Aurélie ? On le prépare alors comme une pomme de terre. Hein. On le fait cuire à l'eau ou à la vapeur. Moi, c'est ce que j'ai fait à la vapeur, je préfère. Ou bien on le fait frire. Alors, on peut en mettre dans la soupe. Mais attention, ne mettez pas trop de carottes hein, puisque le panais et la carotte ont un goût similaire. Par ailleurs, n'hésitez pas à ajouter avec le poireau et les pommes de terre une ou deux patates douces pour harmoniser l'ensemble au niveau des saveurs. Sinon, on peut également le rajouter dans un couscous. Alors, pourquoi je dis ça pour la soupe ? Parce que tout simplement, moi, la semaine dernière, mes parents ont fait une soupe avec donc panais plus carottes. Et c'est vrai que ça a emporté. Enfin, je trouve qu'on sentait plus du tout le reste des légumes.
Le goût est presque plus fort qu'une carotte.
Ah oui, mais c'est pour ça qu'en plus, si on veut rajouter des carottes, tu te rends bien compte qu'on sent plus que ça. Quoi.
Tout à fait.
Voilà. Enfin, en tout cas, ne vous en privez pas. Le panais est plus riche en vitamines et en minéraux que sa cousine, la carotte. Donc voilà, 1-0 pour le panais face à la carotte.
Waouh, un match de
l'exactement.
Oui, alors laissez-moi aussi vous parler de la courge butternut, appelée en français doubeur, de la famille des cucurbitacées. Alors, c'est vraiment mon coup de cœur. Alors, sur la table, on en a cru et puis on en a aussi
cuit.
Oui, la courge cuite.
Merci.
Tiens, si tu veux goûter, Aurélie. Donc là, je l'ai faite cuire à la vapeur et revenir un petit peu à la poêle avec un petit peu de beurre.
Cru, je trouve que ça a un petit goût de melon un peu.
Ah oui, ça, j'y avais pas pensé. Mais
Moi, ça me faisait penser à la patate douce au manioc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ou à la noix de coco, presque, la texture et le côté un peu gras. C'est bizarre, alors que ça le perd complètement
quand
en cuit.
Oui.
Il n'y a plus du tout cette impression.
Alors, j'en ai acheté hier hein, chez le primeur en bas de chez moi, à Mende, pour la première fois de ma vie. Alors, il m'a dit qu'on pouvait en manger avec la peau, mais c'est vrai que personnellement, je trouve que la peau, elle est un petit peu dure quand même. Hein. Donc, voilà, mieux vaut l'enlever en plus.
C'est un peu la galère à éplucher. Hein. C'est plus dur que la courge, hein, quand même.
Oui, mais regarde, là, butternut est cuite et je trouve que la peau, elle s'enlève hyper facilement.
Fais cuire à la vapeur avec la peau, ensuite tu retires la peau et après tu le travailles comme tu veux.
Exactement.
D'accord.
Alors, cette courge, donc, c'est ce que j'ai dit, hein, se cuit à la vapeur ou à l'eau d'ailleurs. Son goût ressemble, donc, on l'a dit, à celui de la patate douce et sa texture également. Je ne sais pas si vous remarquez cette texture.
Ah oui, oui.
Hein. Je ne suis pas encore arrivée au cuit, moi, mais j'y arrive.
Donc, sa chair est orange et on en fait des soupes hein, bien veloutées, mais également des purées où on mange ça comme ça, tout seul. Bonus hein, pour épater vos invités, cuisiner cette courge en dessert, puisqu'elle a un goût...
C'est très sucré.
C'est naturellement très, très sucré, hein, purée, effectivement. Et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure en off avec Aurélie et Guillaume dans Top Chef, puisque c'est aussi un petit peu pour ça que je vous parle des légumes oubliés, c'est qu'à l'occasion de la sortie de Top Chef, voilà, j'avais envie de parler un petit peu cuisine, effectivement. Et ils ont aussi, donc, les candidats de Top Chef, travaillé avec des légumes...
En pâtisserie.
En pâtisserie. Voilà. Et donc là, si vous voulez épater vos convives, vous pouvez très bien cuisiner la butternut en dessert.
Mais là, c'est impressionnant. Hein. Il y a des fruits qui sont moins sucrés que, que le butternut que tu as cuisiné là, juste à la vapeur.
Oui.
Oui, c'est impressionnant.
Enfin, là, c'est à vapeur et je l'ai fait un petit peu revenir quand même dans une poêle. Voilà, mais c'était c'est léger, quoi.
Oui, oui. Non, mais je veux dire, t'as rien rajouté.
Ah non.
Il est un peu de beurre, quoi.
Oui, mais enfin, c'est léger, hein, parce que vraiment, la poêle était grande et j'ai fait cuire plein de légumes.
Bon. Bien. Alors, est-ce que tu voudrais nous parler d'un beau légume, ouais. Parce que bon, on a dit qu'ils étaient moches, mais bon, encore que là, le butternut, ça va.
Oui, alors, mais bon, ça prend beaucoup de place en fait, parce que c'est très gros. C'est tu vois, c'est voilà. Alors oui, on va parler d'un joli légume. Et alors, ce joli légume, c'est la vitelotte, appelée aussi négresse ou truffe de Chine. Alors, apparue en Amérique du Sud, cette pomme de terre revient à la mode aujourd'hui en France grâce à la couleur de sa chair qui est violette, que ce soit cuit ou cru.
Ah oui, c'est joli. Hein.
Voilà, ouais. C'est bien violet. Hein.
Elle nous le montre, hein, c'est pour
oui,
ça.
Voilà. Oui, voilà, ce petit blanc, oui, parce qu'on a une démonstratrice.
Ce petit blanc, c'est parce que nous avons la bouche bée.
Voilà, et on est là. Wow. Parce que c'est quand même vachement marrant. Donc là, Anne-Marie a coupé la pomme de terre crue. Et en fait, on a l'extérieur qui est vraiment violet, très le violet. Cœur qui est violet. Ouais. Et entre les deux, on a une sorte de joli petit liseré blanc. Et c'est vraiment sympa. Et voilà, j'allais dire, et est-ce que la cuite. Qu'on ne retrouve pas dans la cuite. La cuite est toute violette. Et alors, elle est violette, vraiment foncée. Elle est vraiment très belle, cette pomme de terre.
C'est presque indigo ou... Je sais pas,
c'est plus foncé
que l'indigo.
Ah oui, oui, oui.
C'est du violet.
Là, j'en coupe des petites rondelles sur la table.
Alors,
si on la cuisine, honnêtement, hein, c'est plus pour cette note colorée que pour son goût, alors, puisque je trouve qu'il a le même, en fait, le même goût qu'une pomme de terre lambda. Hein. C'est vraiment pareil.
Si on ferme les yeux, pas de différence.
Non, effectivement. Mais effectivement, ça donne un petit effet hein, d'en servir sur la table. Et puis, cette vitelotte est idéale aussi pour faire des chips donc violettes, vous l'aurez bien compris.
D'accord. Et alors là, bizarrement, tu voulais aussi nous parler d'ortie. Mais ce n'est pas un légume.
Alors, effectivement, l'ortie est une plante herbacée et non un légume. Mais comme ses amis, topinambours, pâtissons, rutabaga, l'ortie est devenue...
Je ne savais pas qu'ils étaient amis.
Voilà. Ils ne sont pas ennemis, en tout cas.
Il y a la fête des légumes.
Voilà. En tout cas, l'ortie est devenue tendance depuis quelques années dans nos assiettes. Les orties sont donc comestibles. Hein, je ne vais pas non plus vous empoisonner. On peut les ajouter dans une soupe.
Il y en a qui ont déjà essayé.
On n'a pas peur.
Il y en a qui ont essayé. Mais pas moi. Et on taira le nom, d'ailleurs.
Je ne me sens pas du tout concernée.
On est toujours vivants. Hein.
Voilà.
Donc, les orties, on peut les ajouter dans une soupe. Alors, j'ai même goûté de la moutarde à l'ortie et un gâteau à l'ortie, et c'était très bon. Mais effectivement, je serais incapable de vous dire quel goût a l'ortie seule. Alors, si on en a suffisamment, on peut également les manger pour accompagner une viande ou bien du saumon à la place des épinards, par exemple. Voilà. Mais si je vous parle de l'ortie, c'est que cette herbe est considérée comme une plante médicinale puissante. Elle est reminéralisante, dépurative, diurétique. Donc l'ortie est bonne pour la santé. Alors on en mange sans modération, surtout hein, que l'ortie ne coûte pas un centime si vous allez en ramasser dans la campagne.
Voilà. Oui, alors, faut quand même prendre des gants.
Ah bah oui, voilà. ça va de soi.
Il faut acheter des gants.
Bah, sinon, en même temps, l'ortie est bonne pour ta circulation sanguine, du coup, puisque tu te retrouves.
Mais c'est vrai en plus. Hein.
Bah oui.
Excellente. Voilà, bon. Mais sinon, on peut en trouver aussi dans des magasins bio si vous n'avez pas envie d'aller en ramasser.
Ou déjà en soupe toute faite, peut-être.
Oui.
Ça me permet de.
Bon, peut-être pour conclure, quelques recettes pour nous mettre en appétit.
Allez, alors la première, hyper facile, hein, puisque bon, en plus à la radio, voilà. Alors pour faire un carpaccio de radis noir, pelez le légume et découpez-les très très finement.
Oui, jusque-là, pour le carpaccio, on maîtrise.
Déposez les tranches dans un récipient large et plat, salez, poivrez, puis ajoutez un petit peu d'huile et un petit peu de jus de citron. Laissez reposer le radis noir au frigo jusqu'au lendemain. Voilà, et le carpaccio est prêt. Mais si vous voulez être un petit peu plus classe, déposez un morceau de foie gras mi-cuit sur le carpaccio de radis noir et à côté, ajoutez une purée de courgettes butternut mélangée à du miel. J'ai testé dans un restaurant et c'est vraiment à tomber. Voilà, il y a un mélange des textures, des goûts qui est harmonieux.
Elle n'a pas essayé de nous le refaire pour nous aujourd'hui. Hein.
Alors honnêtement, c'était dans un restaurant une étoile, vois-tu, Guillaume. Alors,
On sait que tu cuisines aussi bien que une étoile.
Je ne m'aventure pas à ce genre de choses. Effectivement, après, le carpaccio de radis noir, il est vraiment à la portée de tous. Mais bon, après, voilà, effectivement, si tu as envie de préparer aussi le foie gras mi-cuit, c'est plus compliqué. Et butternut avec du miel, je n'ai pas encore testé, mais je le ferai
bien. Moi, je trouve ça tellement sucré, j'ai du mal à me dire qu'on rajoute du miel.
Ah, un petit peu. Ouais, ah, honnêtement, c'était à tomber. Hein. Ah, si, un tout petit peu. Allez. Voilà, sinon, je vous propose une autre recette très, très facile également à réaliser. Donc, c'est une poêlée de crône à la crème, d'après les conseils du site Marmiton. Hein. Je n'ai rien inventé. Donc, laissez cuire les crônes 15 minutes. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est long à préparer quand même. Donc, on les laisse cuire. Ensuite, on essaye de bien les laver et puis d'enlever un petit peu la peau. Enfin, c'est plutôt une pellicule, hein, c'est pas... Donc, les égoutter. Puis ensuite, mettez les crônes dans une sauteuse beurrée et laissez cuire de nouveau 10 minutes sur feu doux. Alors, pendant ce temps, on bat un jaune d'œuf avec de la crème, alors à peu près 15 centilitres hein, de crème fraîche liquide. Donc, on mélange le jaune d'œuf avec la crème, le sel, le poivre, puis on verse le tout dans une sauteuse, sur les crônes bien sûr, sans cesser de remuer et en veillant à ne pas porter à ébullition. Donc voilà, on laisse mijoter quelques minutes sur le feu très doux et puis on le dresse dans un plat de service bien chaud. Et puis on les nappe de sauce. On les saupoudre de persil et de cerfeuil haché. Et là, je vous dis bon appétit.
Waouh.
Bon, alors nous, on va passer aux crêpes hein, pendant la pause musicale. Qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter
Alors, je vous propose d'écouter Pharrell Williams et son tube Happy.
tu,
elle
et lui.
Oui, on se retrouve donc en cette deuxième période d'émission d'Actuel et lui. Et donc lui, c'est toujours Guillaume, hein, c'est notre Guigui.
Ça n'a pas changé.
Tu n'as pas
ça,
changé.
Ça me rend, tout le monde m'appelle Guigui aujourd'hui.
C'est vrai. Voilà.
C'est ton petit nom.
C'est, je sais pas. Ça doit
et
être
pourtant, c'est la Sainte Martine.
Et voilà.
Enfin, un bisou à la maman d'Aurélie.
À notre Martine. Ouais,
en plus, on va pouvoir, on va pouvoir goûter de ses confitures, non, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Pour mettre dans les crêpes. Donc,
voilà, pour mettre dans les crêpes, parce que... Guillaume, tu as décidé de nous parler de crêpes, hein, puisque oui. le 2 février, je crois que c'est la Chandeleur.
Et donc Anne-Marie arrive à parler, relancer Guillaume, et avec
mais
sa main
droite... Mais tu sais, les femmes, on n'est pas monotache.
Ah là là, avec sa main droite, elle retourne les crêpes.
Donc je disais que le 2 février, c'est la Chandeleur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, justement, sur cette fête?
Oui, alors j'utilise la même source que toi, comme d'habitude, Wikipédia. La Chandeleur, ou la fête des chandelles, est une fête populaire d'origine païenne liée à la lumière. Elle correspond aussi à une fête religieuse chrétienne, la dernière des fêtes du cycle de Noël, autrement appelée la présentation du Christ au temple, on va y revenir. On disait aussi autrefois l'hippapante.
Oui, c'est du grec, c'est pour ça que c'est dur à dire.
C'est ça. Et donc elle est actuellement fixée au 2 février, effectivement, donc c'est ce dimanche.
D'accord, alors tu peux nous parler aussi d'étymologie peut-être et d'origine de ce mot?
Oui, alors au niveau étymologique, la chandeleur qui s'appelait avant la chandeleuse vient donc du mot chandelle. À l'origine, la chandeleur vient de l'expression latine festa candelarum, qui signifie donc la fête des chandelles, car la bénédiction des cierges se déroulait ce jour-là. On l'a souvent oublié, mais en fait, la chandeleur est la dernière des fêtes de Noël. D'ailleurs, en Provence, la crèche est traditionnellement retirée à la chandeleur. Mais comme beaucoup de fêtes du patrimoine culturel judéo-chrétien, la Chandeleur trouve aussi son origine dans un mixage des traditions païennes et des religions juives et chrétiennes. Alors si on commence par les origines païennes, l'une des origines de la Chandeleur remonte aux Parentalia romaines, qui était une fête annuelle...
Du latin maintenant, voilà. Guillaume polyglotte aujourd'hui.
Qui était donc une fête annuelle en l'honneur des morts, au cours de laquelle les Romains veillaient à l'aide de cierges et de torches, en honorant Pluton et les dieux. On relie aussi la Chandeleur au dieu Pan, et durant une nuit, les Romains adorateurs du dieu Pan parcouraient les rues de Rome en portant des flambeaux. La Chandeleur est aussi la survivance d'une croyance et d'une symbolique d'origine celte. La crêpe symbolise la roue solaire et le don aux divinités sans lequel le blé serait carrié.
Donc tu nous disais que c'était aussi une fête religieuse,
et oui,
chrétienne
là,
du coup.
Voilà, la Chandeleur effectivement est une fête chrétienne qui trouve son origine dans la fête des relevailles. 40 jours après la naissance de son enfant, les Hébreux fêtaient les relevailles de la femme par une cérémonie de purification. Dans la religion catholique, la Chandeleur est donc le jour de la présentation de Jésus au temple, 40 jours après Noël, et c'est le jour de Noël, le jour de sa naissance, et bien évidemment. Cette christianisation de la Chandeleur se fait en 472, lorsque le pape Gélas Ier organise des processions aux chandelles qui symbolisent Jésus, lumière d'Israël. Les cierges sont donc bénis ce jour de la Chandeleur en signe de purification. Et donc, la présentation de Jésus au temple de Jérusalem, c'est donc une fête religieuse chrétienne annuelle qui est également un thème de l'iconographie religieuse, aussi bien en peinture, en enluminure, en sculpture, en vitraux, en tapisserie. Elle s'inspire d'une scène décrite par l'Évangile selon saint Luc, où le fils de la Vierge Marie est annoncé par Siméon comme le maître et la lumière qui portera la révélation aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs, voilà, Siméon étant le sage au temple, justement.
Donc là, tu nous as préparé des crêpes, parce qu'effectivement, quand on pense à Chandeleur, on pense à crêpes. Mais alors, pourquoi mange-t-on des crêpes le jour de la Chandeleur?
Alors, si les crêpes sont traditionnellement mangées le jour de la Chandeleur en France, ce n'est pas le cas dans toutes les régions et dans tous les pays. En réalité, on oublie souvent les beignets ou les bugnes, qui sont aussi répandus que les crêpes, et tout aussi populaires. Toutes ces pâtisseries de la Chandeleur symbolisent le retour prochain du printemps et l'abondance espérée pour l'année en cours. Il y a parfois un peu de confusion quand même dans les spécialités liées au carnaval, et donc au jour de Mardi Gras, et aussi aux spécialités liées à la Chandeleur. Donc on est un peu dans une période entre deux, puisque ça dure au maximum un mois, au grand maximum, en fonction de la date de Pâques, puisque le Mardi Gras est la veille du carême, donc tout ça est décalé. Mais donc ça laisse une petite période où on va être dans ces crêpes, ces bugnes, ces beignets, ces navettes. Voilà.
Oh mince, on est triste.
Et oui. Alors, effectivement, selon certains, les crêpes seraient un souvenir des galettes que le pape Gélas Ier, toujours, offrait aux pèlerins venus au pèlerinage à Rome au 5e siècle. On dit que les crêpes, par leur forme ronde et dorée, rappellent le disque solaire, évoquant le retour du printemps après l'hiver sombre et froid. Les crêpes sont surtout des pâtisseries faciles et économiques à faire dans toutes les familles. Toutes les classes sociales pouvaient participer à la fête de la Chandeleur, tout en terminant les provisions qui ne pouvaient pas être consommées pendant le carême. Voilà. Et donc les crêpes sont des pâtisseries faites à base de farine, d'œufs et d'eau. Certaines recettes remplacent l'eau par le lait ou ajoutent du sucre et du beurre. Chaque région a sa recette de crêpes pour la Chandeleur. Voilà. Alors ça, c'était les crêpes, mais on a aussi donc des beignets, qui sont aussi des pâtisseries très anciennes, qui remontent au fait des calendes romaines. Les beignets, donc des pâtisseries réalisées à peu de frais aussi, avec de la farine, des œufs, du beurre ou de la graisse. Certains beignets sont réalisés avec des fruits, mais pas nécessairement. On trouve des beignets de la Chandeleur ou de Carnaval dans toutes les régions françaises. Et selon les régions, la composition, leur forme, leur épaisseur, ce nom de beignets change. Les beignets, les bugnes, les roussettes, les merveilles, les oreillettes, les beignets, les roubignots, les tourtisseaux, les corvechets, les ganses et les nouets. Voilà.
Et tu nous as préparé tout ça ?
Non, je vous ai fait que des crêpes. Et alors, il y a une dernière tradition culinaire autour de la Chandeleur très particulière, qui sont les navettes de Provence, qui sont donc quelque chose de typiquement provençal. C'est des petits biscuits en forme de barquette qui sont consommés en grande quantité pendant toute la Chandeleur. Et il existe trois sortes de navettes de la Chandeleur. Les navettes tendres, qui se conservent peu. Les navettes marseillaises de Saint-Victor, sans fleurs d'oranger. On reparlera de l'histoire de Saint-Victor dans quelques instants. Et puis les navettes traditionnelles provençales à la fleur d'oranger.
Bon, et puis il y a aussi cette tradition chandeleur argent.
Oui, et alors, effectivement, une coutume de la chandeleur consistait à tenir une pièce d'or dans la main gauche, tandis que, la droite, que de la droite, on faisait sauter la première crêpe.
Tu l'as fait ?
Eh bien non, parce que moi je l'ai fait avec une crêpière. Donc,
bah, quand tu retournais, on doit pouvoir un petit peu...
Voilà, donc si la crêpe retombe correctement retournée dans la poêle, on ne manquera pas d'argent pendant l'année. Cette coutume de la chandeleur varie selon les pays et les régions, là aussi. Aussi, dans certaines régions, cette crêpe était ensuite pliée autour de la pièce d'or et placée sur le haut de l'armoire de la chambre du maître de maison. Les débris de la crêpe de l'an passé étaient alors récupérés et la pièce qu'elle contenait donnée au premier pauvre rencontré. Et si on respectait tous ces rites, on était assuré, disait-on, d'avoir de l'argent toute l'année. Aujourd'hui, bah, forcément, les pièces d'or sont plus rares, donc on a plutôt pris l'habitude de faire sauter les crêpes en tenant dans une main la pièce de monnaie la plus importante en possession de la famille.
Et il existe des traditions particulières à certains endroits autour de la Chandeleur ? Justement, tu me
parles de ça. Oui, il existe des traditions particulières, et notamment à Marseille, avec la tradition de la Chandeleur, qui est la montée de la Vierge Noire de la crypte de Saint-Victor dans la basilique supérieure le 2 février. Chaque année, sur la place Saint-Victor, l'archevêque procède à la bénédiction de la ville et de la mer, puis les fidèles, en procession, regagnent l'abbaye. La procession passe par le four des navettes, qui est lui aussi béni, ainsi que ses navettes. Le four des navettes est édifié dans le territoire de l'abbaye. Il est la représentation symbolique de l'ancien four de l'abbaye. La Vierge est ensuite redescendue dans les cryptes, où sont dites pendant 8 jours des messes toutes les heures. Au retour de la procession, les fidèles rapportent les fameuses navettes, dont on a parlé tout à l'heure, qui sont traditionnellement mangées en Provence, donc pour la Chandeleur. Cette tradition donc, de la Chandeleur est très ancienne, puisque les pèlerinages remontent à l'Antiquité, et Saint-Victor date du 3e siècle. Alors là, vous allez entendre normalement un petit bruit, hein, puisque comme forcément on mange des crêpes, on boit du cidre. Voilà, c'est fait.
Aurélie
voilà.
N'a pas de flatulence, c'est juste qu'elle a ouvert une bouteille de cidre.
Alors on continue avec les traditions, et cette fois-ci on part au Luxembourg, où là il existe une tradition aussi issue d'une ancienne procession au flambeau. Alors c'est la fête du Lichtenmessdag, une fête donc au centre de laquelle se retrouvent les enfants. En petits groupes, ils parcourent les rues de l'après-midi ou la soirée du 2 février, tenant à la main une baguette allumée ou un lampion confectionné par leurs soins. Et ils vont chanter dans les maisons ou les magasins l'une ou l'autre chanson traditionnelle. Et en particulier une chanson qui s'appelle Leuer Argotblechen.
Voilà, c'est les mots du jour. Hein,
ouais, c'est un peu compliqué hein, pour moi aujourd'hui. Voilà, et ils espèrent recevoir en échange une récompense sous forme de sucreries ou de petites pièces. Voilà. Et anciennement, c'était du lard, des petits pois et des biscuits qui étaient remis aux enfants.
La prochaine fois que je voudrais te remercier, Anne-Marie, je t'apporte une boîte de lardons. C'est trop gentil.
Mais c'est vrai que ça fait un petit mélange de.
Ne mets pas dans ta poche. Hein.
Ça fait un petit mélange de ces images qu'on voit dans les films là, pour aux États-Unis de chansons où des groupes vont chanter devant les portes de chacun. Et puis avec un croisement aussi un peu avec Halloween et le fait d'aller chercher des bonbons, des friandises chez ses voisins. Je trouve que c'est assez marrant. Alors au Mexique, la Chandeleur est un jour férié.
Moi je suis pour qu'on adopte, qu'on soit international, mais et qu'on adopte les fêtes des autres.
C'est un dimanche cette année, donc.
Ah merde, bon, tant pis.
Et puis donc aux États-Unis et au Canada, la célébration de la Chandeleur a été remplacée par les médias, enfin dans les médias surtout, par le jour de la marmotte.
Oh, celui-là aussi je l'aime.
Bon alors du coup ça a donné forcément naissance à certains dictons et proverbes, alors est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns par exemple?
Oui, ben, on a vu qu'en fait c'était très en lien cette fête avec le printemps, avec le renouveau, etc., des cultures et tout ça. Donc il y avait aussi une légende autour d'un ours. Un dicton donc populaire très ancien dit: l'ours sort de son hibernation à la Chandeleur. Si le temps est sombre, l'hiver se termine et l'ours peut définitivement sortir de sa tanière. Si le temps est beau et que l'ours voit son ombre, l'hiver se prolonge de 40 jours et son hibernation aussi. Voilà. Alors, il y a d'autres dictons qui vont dans le même sens. Le jour de la Chandeleur, l'ours rit ou pleure. On retrouve cette tradition de l'ours. S'il fait beau et lui à Chandelours, puisque ça s'appelait Chandelours aussi avec le mélange des deux traditions, la Chandeleur et l'histoire de l'ours.
Si pas semaine, pourvu comment je décrète, nous. Hein. Non.
S'il fait beau, et lui... Et donc, s'il fait beau pour la Chandeleur, 6 semaines se cache l'ours. Voilà, et puis, donc, après, d'autres...
On dirait les dictons d'Anne-Marie.
Oui, c'est sympa. Il existe de nombreux dictons sur le temps à venir. Le soleil de la Chandeleur annonce hiver et malheur.
Oh, bah, en même temps, le 2 février, ouais. Ils sont marrants, eux.
Oui, sauf que s'il fait moche, après, l'hiver se termine. C'est ça, la tradition de l'ours. À la Chandeleur, l'hiver se meurt ou prend vigueur. À la Chandeleur, au grand jour, les grandes douleurs. À la Chandeleur, grande neige et froideur. Ça, c'est peut-être prévu pour ce week-end, effectivement.
Ouais, à la Chandeleur, il fait tous les temps, quoi.
À la Chandeleur, la neige est à sa hauteur, ce qui signifie que c'est souvent à cette date que l'épaisseur de la neige est à son maximum, notamment au Québec.
C'est-à-dire 6 mètres.
À la Chandeleur, le froid fait douleur. Ça, c'est aussi valable. À la Chandeleur, le jour croît de 2 heures, et c'est vrai que ces jours-ci, on a revu les jours s'allonger de façon assez spectaculaire. On le constate déjà.
Oui, mais c'est tous les ans. Enfin, je veux dire, voilà.
C'est des petits proverbes.
Ah bah oui, c'est un peu normal, quoi. Voilà, les proverbes, ils marchent tous les ans. Non, mais je veux dire, voilà, on n'a pas besoin d'attendre la Chandeleur. C'est quelque chose de naturel, c'est cyclique. Mois de janvier, on sait très bien que les jours allongent.
Et on t'a dit le 2 février.
Et donc, si la Chandeleur pleure, l'hiver ne demeure.
On verra donc, dimanche.
S'il fait moche dimanche, normalement, l'hiver s'arrête. Et s'il fait beau dimanche, eh ben, on est reparti pour 40 jours d'hiver.
Mm-hmm. On va taper Laurent Roux, je crois.
C'est ça.
Bon, en tout cas, merci beaucoup, Guillaume. Merci pour les crêpes, même si les auditeurs ne peuvent pas en manger. Mais ils nous, on te remercie venir, parce qu'elles sont très bonnes. Est-ce que justement, tu peux nous dire comment tu les fais, toi, tes crêpes?
Alors, c'est une recette, c'est la recette de pâte à crêpes légère sur marmiton.org. C'est 5 œufs.
Le jour où Guillaume n'a plus internet, il meurt. Il ne peut plus manger, il ne peut plus rien faire, il ne peut plus faire ses chroniques.
Donc, 5 œufs, 250 g de farine, un demi-sachet de levure, ce qui donne des crêpes un petit peu plus gonflées un peu plus légères.
C'est vrai que moi, j'en mets jamais de levure.
75 centilitres de lait. Qu'est-ce que j'oublie, du sucre vanillé, 2 sachets et une cuillère à soupe de sucre, voilà, et puis après on mélange tout ça et on laisse reposer 1 heure, et après on rajoute une petite cuillère à soupe d'huile dedans et une petite cuillère à soupe de rhum pour parfumer un petit peu, voilà.
Et avec tout ça tu fais combien de crêpes?
Ben, je ne sais pas combien il y en avait.
Il y avait un beau tas avant qu'on l'attaque.
Une bonne vingtaine, oui. Voire même un peu plus. Oui, quoi. Oui,
mais bon, en tout cas, elles sont excellentes.
Et après, moi, je l'ai fait sur une crêpière style appareil raclette qui est compatible. Et je trouve que c'est très pratique parce que ça permet d'être en convivialité.
Du coup, sauf pour la faire sauter et que tu aies de l'argent toute l'année.
C'est ça.
Ça, c'est un vrai problème.
C'est l'inconvénient majeur. Mais sinon, c'est vrai que c'est assez pratique pour le faire, pas en étant avec d'autres gens, et de pouvoir le faire voilà, sans
t'es
qu'il y en ait un
qui
soit
dans ta cuisine,
voilà, pendant que les autres mangent à côté. Voilà.
Très bien, merci beaucoup.
T'es tout seul avec ta chronique pendant que nous on mangeait des crêpes, quoi, un petit peu.
C'est ça. C'était
un peu le problème.
Et la mienne qui était chaude au début de la chronique
voilà,
est froide maintenant.
Bon bah merci beaucoup Guillaume et tu nous fais écouter quelle chanson ?
Eh ben quand on pense crêpe, on pense Bretagne et donc on pense aussi Nolwenn Leroy et donc la jument de Michaud.
Très bien. Actuel et lui. Et Aurélie, tu vas donc clore cette émission. On va digérer un petit peu avec toi et tu vas nous parler d'un personnage, je crois.
Oui, effectivement, ma chronique d'aujourd'hui parle d'un personnage de fiction créé par Sir Arthur Conan Doyle dans un roman policier, Une étude en rouge, en 1887. Lors de ses enquêtes, plusieurs relatées dans les 4 romans et dans 56 nouvelles qui forment ce qu'on appelle le canon, par opposition à l'énorme quantité de suites, d'aventures parallèles, écrites par de nombreux auteurs, prenant plus ou moins de liberté avec le personnage originel. Je vous disais donc, dans ses enquêtes, il est fréquemment accompagné du Dr Watson. Donc vous avez deviné, je pense, le personnage très typé, Sherlock Holmes, est devenu l'archétype du private détective pour des générations. D'ailleurs, Sherlock Holmes demeure l'un des personnages les plus repris à l'écrit. En 1990, le Guinness Book of Movies recensait 204 adaptations cinématographiques, ce qui fait de lui le personnage le plus utilisé de l'histoire du cinéma.
Voilà, tu nous parles un petit peu plus de ce personnage de Sherlock Holmes.
Oui, alors, d'après les romans, hein, bien sûr, il serait né en janvier 1854, donc selon les suppositions les plus courantes, aucune date n'est en effet citée, en un lieu non déterminé, descendant de petits propriétaires terriens et petit-neveu du peintre...
C'est le cidre.
Voilà, ça doit être ça. petit-neveu du peintre, et puis j'arrive pas à dire tout ça, propriétaire terrien et petit-neveu du peintre Horace Vernet. Sherlock Holmes est devenu un célibataire endurci, plutôt misogyne. Son seul parent connu est son frère aîné, Mycroft, l'un des piliers du Diogenes Club, qui occupe des fonctions importantes auprès du gouvernement britannique. Le docteur Watson, son ami et biographe, est la seule personne qui partage son intimité. Sherlock Holmes réside à l'adresse très célèbre du 221B Baker Street à Londres, où il exerce donc la profession de détective privé consultant, consulting détective, si je vous la fais en anglais.
Ouais, tu nous le décris un petit peu, ce Sherlock Holmes ?
Ah oui, alors, il est grand, mince, élégant mais négligent, de façon bohème. Holmes est un fumeur invétéré, alors cigarette, cigare, pipe, un sportif néanmoins accompli, bartitsu, donc c'est un art martial, boxe, escrime, un mélomane averti qui pratique le violon. Mais un médiocre mangeur, il n'aimerait pas nos chroniques. Il ne supporte pas l'oisiveté qui l'épuise et ne vit que pour son travail. Pendant les moments où il ne peut pas travailler, il est parfois amené à se droguer, notamment la cocaïne. Il en profite.
On rappelle quand même que c'est dangereux pour la santé.
Voilà, c'est ça. Bah, d'habitude, Guillaume nous fait son petit message de santé publique, mais là, il ne peut pas parce qu'il mange des crêpes. Donc, je dis donc qu'il ne faut pas se droguer, c'est très mal. Mais il en profite également dans ses moments d'oisiveté pour compléter la culture encyclopédique nécessaire à sa profession. Donc, selon un portrait dressé par le docteur Watson dans Une étude en rouge, Holmes ne possède aucune connaissance en littérature, en philosophie ou en astronomie. Ses connaissances en politique sont existantes mais plutôt faibles. Et inversement, par contre, puisque ça lui est utile, il a de très bonnes connaissances en chimie, possède des bases convenables en anatomie, des connaissances pratiques en géologie et en botanique, surtout les poisons comme la belladone par exemple. Alors c'est quelqu'un d'égotiste, il pense surtout à lui, cet esprit, avec un esprit supérieurement intelligent, il supporte difficilement la lenteur d'esprit chez autrui, il est artiste, doué pour les déguisements, il est toujours un peu en représentation, aimant surprendre ses clients et son excellent ami Watson. Il n'apprécie guère la police officielle et n'hésite pas à bafouer la loi lorsque celle-ci lui paraît peu compatible avec la justice. Le rang de son client lui importe peu, moins que l'intérêt de l'affaire en fait. Et il prétend mépriser la notoriété.
Mais elle rame aujourd'hui.
Voilà, bah c'est comme ça, il y a des jours. Hein. Mais il ne s'oppose en rien à la publication de certaines de ses enquêtes par Watson, qui contribue à lui donner une renommée considérable. S'il méprise l'argent, il n'hésite pas à enquêter pour des gens modestes. Il reçoit néanmoins des récompenses importantes de grands qui lui permettent ensuite de prendre une retraite confortable.
Bon, alors, les caractéristiques de Holmes, c'est tout d'abord... La phrase culte, élémentaire, mon cher Watson.
Élémentaire, mon cher Guillaume, oui. Mais désolé, je vais péter le mythe, puisque cette phrase est en fait associée au XXIe siècle à Sherlock Holmes. Il ne l'a prononcée dans aucune des histoires de Sir Arthur Conan Doyle. En fait, cette célèbre phrase apparaît dans le 4e volume des œuvres complètes. Dans ce volume apparaissent La Vallée de la Peur, les contes des mystères, exploits de Sherlock Holmes qui sont écrits par Adrian Conan Doyle en fait, et pas par Arthur.
Oui, et puis Holmes, c'est la méthode aussi.
Effectivement, en fait, Sherlock Holmes résout les mystères toujours par un processus en trois étapes. D'abord l'observation des indices, ensuite l'induction et enfin une synthèse logique.
Un détail vestimentaire aussi.
Oui, alors je suis très contente d'avoir trouvé le nom de ce fameux couvre-chef. Alors il va falloir que j'arrive à le dire correctement. C'est le Deerstalker. Oui, voilà. Donc cette espèce de chapeau, vous voyez, à oreille, là, qu'il remonte de chaque côté. Il fait un petit nœud en haut, à carreaux. Et c'est aussi son détail vestimentaire avec la pipe. On reconnaît toujours sa silhouette.
Donc si tu nous parles de Holmes, c'est sûrement qu'il doit y avoir une actu dans l'air.
Effectivement, le TV Magazine que tu m'as refilé en douce lundi du 25-26 janvier consacre donc un dossier de 3 pages au phénomène Sherlock Holmes à la télévision. Donc Sherlock, la série télévisée britannique produite depuis 2010 par et sur la BBC, et Elementary, série télévisée américaine diffusée depuis 2012.
Mais il y a un intérêt quand même.
Alors oui, effectivement, adapter, c'est pas copier, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Et sur ce plan, que ce soit Elementary ou Sherlock, le défi est réussi, puisqu'en fait, les deux séries proposent une version clairement nouvelle de Sherlock Holmes. Adapter, c'est quand même néanmoins respecter l'œuvre originale, et il s'agit d'honorer, de reprendre les rouages qui font son authenticité, tout en changeant d'autres qui, eux, pourraient être modifiables sans atteindre son intégrité.
Bon, alors la série du moment, c'est Elementary qui a fait son arrivée sur M6, hein, c'est ça ?
Et oui, c'est ça. Elementary, la version donc USA de l'adaptation moderne des aventures du célèbre détective. Dans cette série, donc diffusée sur CBS aux États-Unis depuis 2 saisons et actuellement sur M6 en France, Sherlock est un ex-junkie, accro à diverses substances, as de la déduction anglais. Il est installé à Manhattan où son père très riche l'oblige à cohabiter avec une nounou qui doit veiller à sa sobriété. Joan Watson, un ancien médecin, elle a perdu un patient et sa licence 3 ans plus tôt et s'est reconvertie dans le suivi et l'accompagnement d'ex-toxicomanes. Ce nouvel emploi est pour elle une façon d'oublier le drame qu'elle a vécu et surtout une pénitence qu'elle s'impose. Quand Sherlock devient consultant pour la police new-yorkaise, Watson n'a d'autre choix que de suivre son irascible client lors de ses investigations. Et très vite, ils réalisent l'un l'autre les avantages que peut apporter un tel partenariat. Donc l'idée de base était originale, voire séduisante.
Alors originale, certes, mais du coup, c'est vrai que Watson, c'est une femme.
Et oui, effectivement, l'assistante en question n'est ni plus ni moins que Watson en personne. Mais pas John Watson, mais Joan Watson. Donc le célèbre compagnon de Sherlock Holmes est ici une femme. L'idée aurait pu être intéressante, voire même géniale, si elle n'était pas traitée comme un outil scénaristique, finalement, sans grand intérêt. Malheureusement, le résultat, moi, je le trouve assez décevant. La réalisation est assez molle, les personnages sont assez linéaires, le scénario ressemble plus à un sous-esprit criminel qu'à une enquête vraiment du détective de Baker Street. On retrouve en plus tous les archétypes de la série policière américaine, le duo Bad Corp, Good Corp, le chef de la police bougonnant, bon d'accord, le trop craquant Aidan Quinn, mais quand même, le serial killer croco méchant, et l'atmosphère crépusculaire un peu à la Seven, bref, du vu et revu.
Feta méchante.
Le croc-cro méchant gang gang gang.
Voilà. Tu l'as fait plutôt bien.
Hein. Et je mime et tout.
Bon, donc a priori, ça t'a pas beaucoup plu.
Non, effectivement, ça m'a pas beaucoup plu parce que toute la complexité, la petite musique de chambre, de l'œuvre littéraire sont gommées au profit d'archétypes assez ennuyeux, la grosse machinerie hollywoodienne. Avec une œuvre littéraire qui sert juste de prétexte plus qu'un vrai scénario de la série. Donc, en plus, on a un Sherlock tatoué, un peu néo-beau gosse, donc Johnny Lee Miller, qui se balade à moitié nu. Bon, bah ça aurait pu être assez sympa, mais du coup, on sent qu'il va finir très rapidement au lit avec Watson, Lucy Liu, si la série dure suffisamment longtemps. Bref, pas de quoi fouetter une Irène Adler pour ceux qui ont vu la saison 2 de Sherlock. J'y reviendrai. En réalité, ce changement est une modernisation assez négative, puisqu'elle a été opérée seulement pour le principe, pour l'image, voire même pour montrer que les éléments ont été hyper modernisés. Je mets des guillemets, parce que c'est la citation du pitch de la chaîne. Le fait que Watson soit une femme est un changement de pure forme, et en fait, qui donne au personnage une assez grande fadeur.
Bah, c'est surtout quand on se dit qu'à un moment donné, effectivement, comme je vous le disais, ils vont peut-être finir ensemble. Donc, y a ce petit suspense, même si on se doute de la fin. Entre Watson du coup et Holmes, entre cette femme et cet homme, tout
voilà,
simplement.
Bon. Et puis alors le cadre new-yorkais, donc
qui est enfin, bon deux hommes, ça peut aussi, ils peuvent finir ensemble
oui,
aussi.
Oui, non mais bien hein. Sûr. Mais il est vrai que dans les séries, on a plus un homme et une femme. Mais il est évident que si tu vas voir Yves Saint Laurent, tu vois bien que lui, c'est pas les femmes qui l'intéressent quoi. C'est un
ressort, disons, vu mais, et revu. Voilà, comme je disais
on se doute bien que deux personnages principaux, voilà,
on peut
s'agir
seul ou à toutes les. Enfin, il y a beaucoup de séries.
Bien sûr.
Voilà.
Ils vont pas faire gnangnang, ils vont faire crac crac.
Voilà. Il y a Crocro, c'est c'est le méchant et gnangnang.
Et crac crac.
Et crac crac, ça c'est autre chose. Donc si on, et alors une des autres modernisations, je reprends le fil, c'est le cadre de New York qui est devenu une norme assez classique et un peu lassante des séries policières américaines. Le personnage de Sherlock Holmes est lui-même assez fade à son tour. Non pas qu'il soit mal joué, au contraire, en fait, l'interprétation de Johnny Lee Miller est plutôt assez bonne dans l'absolu, mais en fait, il n'est pas vraiment Sherlock Holmes. Il ne possède pas l'esprit, en fait. Il représente un peu une marionnette qui singe un peu désespérément une version un peu caricaturale et dégradé du personnage. En fait, moi, il me fait plus penser au Dr House, mais en moins charismatique que Gregory House, quoi.
Mais moi, je regrette quand je vois effectivement donc celui qui interprète Holmes. Je trouve pas qu'il a les traits.
Il est pas Sherlock Holmes.
Ah, mais pas du tout.
Non, non.
Moi, je l'imagine pas du tout comme ça, Sherlock Holmes. Et il fait petit minet.
Voilà.
Ah, mais pas du tout, hein.
Ça
il
va
est pas,
pas
crédible. En fait, il est pas crédible.
Ça va pas. Ouais.
Ouais.
Effectivement. Il se veut du coup un Sherlock un peu délirant, décalé, image donc de ce que l'on perçoit du personnage emblématique. Mais en fait, finalement, tu vois, je suis un peu comme toi, ça n'aboutit qu'à un bonhomme un peu maladif, imbuvable, pour lequel on n'éprouve aucun sentiment. Et contrairement à ce qu'il devrait être, malgré son côté sociopathe, en fait, il devrait quand même être attachant et en fait, il est vraiment pénible. Donc le transformer en ancien toxico, c'est aussi rendre officielle la partie ambiguë de sa personnalité. Or, c'est justement l'ambiguïté, l'ambivalence du personnage qui fait tout son intérêt. Les enquêtes et les épisodes, quant à eux, bien que rondement menés, ça y a pas de souci, s'enchaînent un peu avec un certain manque d'originalité, sans aucune singularité, sans aucun fil conducteur décemment accrocheur. Donc en fait, on se retrouve dans une série policière un peu habituelle. La seule différence, en fait, c'est que le personnage porte le nom de Sherlock Holmes. Donc en finalité, CBS aurait dû pousser l'adaptation encore plus loin en élaborant son propre personnage plutôt que finalement utiliser l'œuvre de Conan Doyle comme un prétexte à une nouvelle production classiquement monotone, même si divertissante.
Et pourquoi pas Holmes en femme ?
Ah ben voilà, allez. Anne-Marie, scénariste pour CBS.
Alors peut-être on peut retourner aussi à la série Sherlock qui était produite par la BBC.
Oui, que je préfère largement. Ah oui. Effectivement, on abandonne Elementary et on fonce sur Sherlock sans aucun état d'âme. Parce que si plébisciter une version anglaise d'un personnage anglais, ok, ça peut paraître un peu réactionnaire. Mais en même temps, c'est plutôt logique quelque part. Hein. Voilà, le personnage en lui-même, originellement, est quand même une incarnation par essence de l'esprit british. Donc cette modernisation orchestrée donc par la BBC est vraiment d'une qualité incomparable à Elementary. Même si c'est moins clair, moins fluide que dans la version américaine, bah du coup, c'est plus réaliste, en fait. Enfin,
c'est vrai que parfois, on s'y perd un peu, quand même.
Oui, hein. Ah, c'est compliqué, hein. Mais du coup...
Surtout si voilà. Tu le vois en version anglaise.
Ah oui. Ah bah oui.
Alors là, c'est, tu rames, hein, parfois.
Ça va vite, et ouais. Puis il y a plein de retours, et c'est vrai que c'est assez compliqué. Alors, dans Sherlock, donc, le personnage de Sherlock est bien un sociopathe. Les traits d'humanité, les nuances de son caractère, sa folie, qui paraît naturelle, car sans excès de jeu, ses relations avec son entourage, et particulièrement Watson, traduisent un personnage crédible et relevé. La réussite de Sherlock tient surtout, pour moi, hein, à l'acteur Benedict Cumberbatch. Son visage aussi bizarre que son nom est imprononçable apporte vraiment un peu de mystère. Et d'ailleurs, il fait l'unanimité. C'est sans doute parce que son jeu respecte en fait un certain équilibre entre tradition et modernité, entre élégance so-british et son côté sombre qui le rend presque aussi inquiétant que ses adversaires, Moriarty en tête. En comparaison, son compatriote Johnny Lee Miller d'Elementary fait plutôt pâle figure.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Je trouve qu'il est vraiment bon. Hein.
T'as l'air sceptique.
J'ai pas du tout accroché à Elementary. Et j'ai très peu regardé Sherlock. Donc,
mais est-ce que tu te souviens de son visage ? Tu sais, le grand brun.
Avec ses yeux très écartés, bleus.
Et c'est vrai que là, pour le coup, il incarne vraiment Sherlock Holmes.
Effectivement, il correspond plus à la représentation
qu'on a du personnage.
Du personnage, tout à fait.
Et alors, donc, dans Sherlock, hein, cette version britannique, il y a un personnage de femme que tu préfères à Joan Watson, je crois.
Oui, effectivement. Et puis, comme la consigne, c'était on fait des choses un peu chaudes ces derniers temps pour que l'on batte, pour qu'on batte le
records.
Mag en matière de téléchargement. Je le rappelle, télécharger nos émissions. Donc, je vais vous parler tout de suite d'un personnage qui me plaît beaucoup. L'autre star de Sherlock, c'est, comment dire, son ennemi, pas vraiment, son alter ego intellectuel en tout cas, Irène Adler. Donc, je vous raconte. Alors que Sherlock a envoyé John sur le terrain pour résoudre la mort mystérieuse d'un promeneur en pleine campagne, les deux hommes se font escorter manu militari à Buckingham Palace. Mycroft a en effet une mission des plus délicates à confier à son frère. Irène Adler, une prostituée de luxe et dominatrice de son état, possède des photos compromettantes d'elle avec une autre femme, membre de la famille royale. Sherlock et Watson sont donc chargés de récupérer le téléphone qui contient ces juteux clichés. Jusque-là, que du classique. D'ailleurs, Irène Adler est créée par Conan Doyle et c'est une des figures féminines de premier ordre dans les canons holmésiens et tout ce que l'on savait de Sherlock va être bousculé, malmené et remis en question par l'apparition de cette femme. La première fois qu'il la voit, il pensait la duper en se déguisant en prêtre et il s'imaginait qu'il aurait du coup l'avantage pour lire en elle comme dans un livre. Quelle erreur! En réalité, elle l'attendait de pied ferme et savait pertinemment qui il était. Et surtout, pour le déstabiliser, elle l'accueille en tenue d'Ève. Il a beau examiner ce corps nu, qu'il regarde, bon ben, non pas comme n'importe quel homme hétéro regarderait une femme, mais comme un tableau d'indices, et il ne perçoit absolument rien. Irène Adler a piqué sa curiosité et continuera de le faire tout au long de l'épisode. Notre Sherlock est désamorcé et désarçonné. Désamorcé aussi, du coup, parce qu'il arrive, il arrive plus à penser. Hein. Donc tout cela est rendu possible uniquement parce qu'Irène Adler est l'égale de Sherlock. Stephen Moffat, qui a écrit ce remarquable épisode, a façonné pour Laura Pulver un rôle à sa mesure. La femme, avec un grand F, qui ne participe pourtant qu'à une des nombreuses aventures de Sherlock, a laissé une empreinte indélébile dans la mythologie des romans et aujourd'hui dans celle de la série de la BBC. Et c'est par son intelligence qu'elle séduira Sherlock, plus que par son sex appeal finalement. Et Martin Freeman et Benedict Cumberbatch ont trouvé là une partenaire à la hauteur de leur talent. Voilà, bon, c'est
voilà. Donc on résume, Elementary, on ne regarde pas, voilà. Et on regarde Sherlock.
Ouais. Et il y a un peu de sexe. Enfin...
ah bah c'est chaud là, hein. Oui, c'est, cet épisode-là, il est chaud bouillant. Hein. Oui, oui.
Bon, qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter?
Alors, pour rester dans l'atmosphère so British, je vous propose d'écouter les Corrs.
We'll be right back.
tu,
elle
et lui. Et voilà, c'est la fin de cette émission, c'est triste.
Oui, on est très triste, tout le monde est mort de rire autour de la table, mais...
Voilà.
Enfin, surtout toi, t'es joyeuse. Hein,
je suis joyeuse, ça doit être le cidre.
Demi-verre de cidre, elle est cuite.
Et voilà, ça y est.
Voilà.
Je sais pas comment on va la ramener. Hein.
Non.
Ouais. Allez, fourbe, décidément, je prends cher en ce moment.
Et ouais, si tu veux.
Qui aime bien.
Tout ça, ça va nous permettre d'annoncer notre prochaine émission.
Et oui, voilà, effectivement.
On se moque de moi.
On se moque de vous.
De nous.
Alors voilà, on va tout vous dire. On n'est pas là la prochaine fois, hein, donc vous allez nous entendre.
Mais c'est pas grave, restez quand même à l'écoute de 48 FM.
Mais c'est ça. Mais donc, ce qui se passe, c'est que vous allez pouvoir réécouter cette émission comme d'habitude, jeudi prochain à 12h30 et les deux mardis qui viennent à 18h11. Et on vous a préparé aussi, donc la semaine dernière, on a enregistré une émission
spéciale pour
la diffusion le 13 février, puisque nous ne serons pas là. Et vous pourrez découvrir dans cette émission plein de surprises. Alors, on a des invités, c'est un actuel élu and Friends. Et vous verrez que le dernier Friends...
C'est plus nos amis, d'ailleurs, pour certains.
Qui sera là, nous en met un petit peu plein la gueule. Donc, voilà, soyez au rendez-vous.
Mais ça nous fait rire. C'est chaud.
Ouais.
Ah, mais c'est chaud.
Ah, oui,
c'est hyper chaud. C'est brûlant, même.
Ah oui, on parle de plein de choses. Donc, voilà, soyez au rendez-vous, réécoutez-nous et... Et c'est avec plaisir qu'on vous fait ces émissions. Et puis vous retrouverez, il y a en plus des émissions des photos de l'émission qui seront sur le Facebook aussi à ce moment-là. Voilà.
Très bien. Bon, alors à très bientôt en tout cas.
À très bientôt.
À bientôt.
Bonne
bisous,
journée
bisous.
Sur 48 FM et à très bientôt.
Ciao, ciao.
Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
Actu.
Actu. Elle.
Elle.
Lui.
Elle.
Lui.
D'actuel.
Et lui. Et lui.